بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، le thème de la traduction est le rôle important de la mosquée. Ô musulmans, nous avons parlé la semaine dernière des différentes fonctions de la mosquée en affirmant qu'elle était une institution musulmane importante. À la mosquée, nous apprenons l'art de vivre, l'éthique de la vie en communauté, le comportement à avoir avec ses amis, ses proches et ses voisins. Nous y apprenons également à respecter les gens de science et à leur donner la priorité. Nous y apprenons l'organisation et l'obéissance. Et enfin, à la mosquée, nous prions la prière en groupe, qui dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés. Nous revivifions notre relation avec Allah et Azza wa Jal à travers nos prosternations, car c'est à ce moment-là que le serviteur est le plus proche de son Créateur. C'est pourquoi la mosquée est appelée Masjid, qui signifie littéralement l'endroit où l'on se prosterne. La mosquée est à la fois un lieu regroupant un bon nombre d'adorations et de nombreuses sciences à étudier. Dans les premiers siècles de l'islam, la mosquée était une université populaire dont les portes restaient ouvertes, été comme hiver, pour les hommes ou pour les femmes, pour les petits et grands. On y apprenait les bases de la croyance, les obligations, les relations et les bons comportements. Il s'y déroulait des cercles d'études où la quiétude et la miséricorde descendaient et que les anges recouvraient de leurs ailes. En effet, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aussitôt que des gens s'assoient dans les mosquées pour lire le Coran et pour évoquer Dieu, les anges les entourent, la miséricorde de Dieu les recouvre et la sérénité descend sur eux. Dieu les évoque aussi parmi ceux qui vivent auprès de lui. » Tous ces mosquées étaient donc ouvertes aux hommes et aux femmes, telles que la mosquée du prophète, où les hommes occupaient les premiers rangs et les femmes les derniers. Ils rentraient tout à la mosquée par une seule et même porte. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de réserver une porte spéciale pour les femmes, suite aux attroupements d'hommes et de femmes qui se passaient à certains moments. Celui qui visite la mosquée du prophète pourra encore voir cette porte où il est toujours écrit « Porte des femmes ». Il est donc permis à la femme de se rendre à la mosquée et il ne convient pas à son mari de lui interdire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'interdisez pas à des servantes d'Allah de se rendre dans les maisons d'Allah. » Donc, si la femme désire de se rendre à la mosquée pour effectuer une prière en commun, assister à un cours ou un sermon, il est interdit à son mari de lui refuser cela. La mosquée est aussi un lieu de rencontre entre les musulmans et spécialement le jour du vendredi. Un groupe de musulmans du même quartier se rencontre dans leur mosquée pour les 5 prières quotidiennes. Et un groupe plus grand de musulmans se rencontre le vendredi dans la grande mosquée de la ville. La politique des musulmans, lorsqu'ils construisaient une ville, était de construire en même temps une grande mosquée, appelée Al-Masjid Al-Jami'a, ou Al-Jami'a Al-Kabir, qui regrouperait tous les habitants de la ville. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait fondé sa mosquée en la destinant à tous les habitants de la ville. Puis lorsque le nombre de musulmans augmenta, les califes bien guidés décidèrent de l'agrandir. Et ceci n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui, lorsque Amr ibn al-As, radiallahu anhu, entra en Égypte. Il construisit une grande mosquée à El Fustet, qui est à destination des habitants de Fustet et portant le nom de la mosquée Amr ibn al-As, jusqu'à aujourd'hui. La politique des premiers musulmans n'était donc pas de construire des petites mosquées ne pouvant accueillir que 100 ou 200 personnes, plutôt celle de bâtir de grandes mosquées accueillant des milliers de personnes, car la base d'une mosquée est qu'elle soit Al-Jami'a, un grand centre, et qu'elle soit peu nombreuse mais pouvant accueillir beaucoup de monde. Des juristes ont même affirmé qu'il était interdit de prier la prière du vendredi dans une petite mosquée, excepté si la grande mosquée Masjid Al-Jami'a est pleine. À notre époque, les mosquées sont toutes remplies car elles sont toutes petites et les gens prient dans les rues, mais ceci est en contradiction avec les objectifs de la législation islamique. En effet, le but de la mosquée est de rassembler les gens car le rassemblement engendre le consensus, l'accord et l'amour entre les gens et ceci n'est possible que dans les grandes mosquées. La mosquée représente également un parlement pour notre communauté. En effet, lorsqu'un problème arrivait, les musulmans se réunissaient à la mosquée afin de concerter car il n'y a pas de séparation entre la religion et l'État dans l'islam. Il n'y a pas d'homme de religion d'un côté et d'homme de dunya de l'autre. Plutôt, chaque musulman est appelé à œuvrer pour sa religion. Avant de mourir, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait déjà élu son successeur en désignant son compagnon Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Afin de le remplacer pour diriger la prière à ce sujet, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a agréé pour notre religion. N'allons-nous pas l'agréer pour nos affaires d'ici-bas ?» Lorsque Abu Bakr fut donc désigné calife et qu'on lui prêta allégeance, il donna un discours, il loua Allah, puis il dit « Ô gens, j'ai été élu comme chef sans être le meilleur parmi vous. Si vous trouvez que j'agis avec justesse, assistez-moi et si vous me le trouvez mauvais, corrigez-moi. La véracité est un dépôt et le mensonge une tromperie. Le faible parmi vous est fort à mes yeux, jusqu'à ce que j'obtienne pour lui son droit. Et le fort parmi vous est faible à mes yeux, jusqu'à ce que je lui arrache ce qui n'est pas son droit. Obéissez-moi, tant que j'obéis à Dieu et à son messager. Si je désobéis à Dieu et à son messager, vous ne me devez aucune obéissance. » Ce discours donné par le calife est comparable à notre époque, à un discours donné par le gouverneur en détaillant son programme devant le Parlement. Les membres du Parlement étaient composés des différentes catégories suivantes, comme Allah Azza wa Jal nous a cité dans le Coran. Ils ont les repentants, les adorateurs, ceux qui louent les méditateurs, ceux qui s'inclinent et se prosternent, les défenseurs de la droiture et les prohibiteurs du mal. Et les gardiens des lois de Dieu donnent la bonne nouvelle et à de tels croyants. Ce sont ces gens-là qui se chargent réellement des affaires des musulmans et dirigent la communauté. Nous apprenons énormément de choses à la mosquée. Parmi celles-ci, l'organisation et l'obéissance. En effet, le messager d'Allah a ordonné aux serviteurs de bien s'aligner et d'être bien organisés pour la prière. Et ils obéissaient directement. Sallallahu alayhi wa sallam leur disait, par exemple, « Ne deviez pas du rang de peur qu'Allah ne fasse devier vos cœurs. Soyez doux envers vos frères. » L'imam était mis en place afin d'être suivi. Donc, lorsqu'il fait le takbir, faites le takbir après lui. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous. Et lorsqu'il récite, écoutez-le. Ceci est un discours enseignant l'organisation et l'obéissance. D'ailleurs, le messager d'Allah mit en garde fortement celui qui déviait de cette organisation et cette obéissance en disant « Celui qui se baisse et se lève avant l'imam a certes son toupet entre les mains du diable. » C'est-à-dire que c'est Shaitan qui dirige ses mouvements. Il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, en mettant en garde « Celui qui ne suit pas l'imam, celui qui lève la tête avant l'imam, ne craint-il pas qu'Allah change sa tête en tête d'âne ? Ceci car il ne comprend pas le sens de l'organisation et de la prière. » C'est ainsi que la mosquée enseigne la science et l'action, purifie le corps et l'esprit, nous avise sur le but et les moyens, la vérité et l'obligation, l'éducation avant l'apprentissage, l'application avant le point de vue personnel. C'est ainsi que nous trouvons la mosquée du prophète comme la première école ouverte à tous, arabe ou non arabe, blanc ou noir, riche ou pauvre, adulte ou enfant, homme ou femme. Ces femmes qui pouvaient donc assister à la prière en commun et au cercle de science dans une époque où elles ne jouissaient encore d'aucun droit, que ce soit le droit de la scolarisation ou de participer aux affaires de la société, rien d'étonnant. Donc que soient sortis de cette école des califes tels que Abu Bakr et Omar, des chefs militaires que Abu Ubaïda et Khalid ibn al-Walid, des lecteurs tels que Ibn al-Mas'ud, al-Ubaïd, Ibn Qa'b, des savants tels que Zayd ibn Thahib et Ibn Abbas, des enfants vertueuses tels que Fatima, Aïcha, Hafsa, Amar et Sulaym. À partir de là, il est évident que la mosquée n'est pas destinée aux derviches, à ceux qui ne travaillent pas, n'agissent pas à pas afin de venir passer leur temps. Plutôt, le Coran a parlé de ceux qui méritent d'occuper les mosquées en disant « Dans les maisons des mosquées qu'Allah a permis que l'on y lève et où son nom est invoqué, le glorifiant en est le matin et après-midi. » Des hommes que ni la négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils font, parce qu'ils font de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut sans compter. Ce sont donc des hommes d'action qui peuplent les mosquées et non les inactifs et les derviches. Quel bon exemple est celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui travaillaient et pourtant cela ne les empêchait pas de venir prier à la mosquée lorsque l'appel à la prière retentissait, comme Allah a dit. Des hommes que ni le négoce ni le troc est distrait l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Ainsi étaient les compagnons du messager d'Allah et ainsi devrait être chacun d'entre nous. Ô musulmans, parmi ce que nous apprenons à la mosquée, il y a également la liberté, l'égalité, la fraternité. Les musulmans sont en totalité en conformité avec ces valeurs. Y a-t-il plus grande liberté que la liberté de conscience ? Le musulman prie à la mosquée en ne soumettant qu'à Allah et Azza wa Jal, en invoquant que lui. À notre époque, les gens sont à la recherche d'endroits au sein duquel leurs cœurs pourront s'apaiser et leur âme se tranquilliser, tels que les parcs, les jardins, les cinémas. Cependant, ils ne trouveront le repos qu'au sein des mosquées et les cœurs ne s'apaisent que par le rappel d'Allah et Azza wa Jal. N'est-ce pas le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent ? Il convient tout de même de préciser que pour tout cela se réalise, il faut que la mosquée puisse jouer le rôle qui lui incombe. Malheureusement, à notre époque, la plupart des mosquées ne tiennent pas leur rôle et leur obligation. La liberté d'expression et la liberté du point de vue, nous les trouvons à la mosquée. Les musulmans y apprennent également la fraternité. Ils s'y retrouvent chaque jour, ils se serrent les uns aux autres, ils se transmettent le salut et ils se parlent et ils deviennent amis. Quelle unité plus profonde trouvons-nous que l'unité des fidèles à la mosquée ? Nous prions derrière un seul imam. Nous implorons qu'un seul Dieu, Allah et Azza wa Jal. Nous ne récitons qu'un seul et même livre, le Coran. Et nous nous dirigeons vers le même Qibla, la Kaaba. Certes, les musulmans ne sont que des frères. Le meilleur exemple est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Celle-ci contenait des personnes de tout horizon, des non-arabes, parmi eux des Européens comme Souheil, des Perses comme Salman, des Abyssiniens comme Bilal. On y trouvait aussi de nombreuses tribus arabes, les Kahtanines, les Adnines, les Haous et les Khazraj, qui se combattaient auparavant durant la période pré-islamique. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ils devinrent tous les frères. L'un d'eux pouvait aller dormir affamé, car il avait nourri son frère. Allah Ta'ala a dit « Ils ne ressentent aucune envie pour ceux que les immigrés ont reçus et ils les préfèrent à eux-mêmes, même si chez eux il y a pénurie. » Voici pour la fraternité. Quant à l'égalité, y a-t-il plus grande égalité que celle des fidèles ? Durant la prière à la mosquée, le vieux à côté du jeune, le riche à côté du pauvre, le patron à côté de l'ouvrier, le savant philosophe à côté de l'illettré, aucune différence entre eux. Ceci ne peut se produire qu'à la mosquée. À nous de faire en sorte que les mosquées puissent jouer pleinement leur rôle.
Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.
N'hésitez pas à partager, à nous suivre sur notre chaîne YouTube Mosquée Tawhid Al-Uin ou encore à vous connecter sur le site de la mosquée www.mosquée-aluin.fr
pour retrouver tous les audios et cours de la mosquée.
Walhamdulillahi Rabbil Alameen.